Oui, si on fait un rapide retour en arrière, dans lequel il faut être attentif et ne rien ne pas créer de distorsion dans l'appréciation, il est jusqu'à un certain moment, précisément ces années 36-37, il y a des traces du racisme, de l'antisémitisme plutôt, qu'il a hérité de ses parents, de ce milieu, qui ont passé des années à ressasser la presse anti-Dreyfusarde, etc. Bon, jusqu'à un certain point, il traîne ces vieux, mais sans les reprendre complètement, ni de manière agressive, à son bon. Et il est même capable, il faut le dire, parce qu'on va tomber immédiatement dans le reste. Et il est même capable de distance par rapport à cette attitude. De la même manière que dans le Voyage au bout de la nuit, il avait écrit cette phrase qu'il faudrait mettre en épigraphe d'une réédition du pamphlet, hein. La race française, ça n'existe pas, ça dégrade la civilisation qui vient du bout du monde et qui n'ont pas pu aller plus loin parce qu'ils sont heurtés à l'océan. Lui qui avait écrit ça et qui va, bien sûr, prendre une vision complètement opposée. Et puis il y a, pour rester sur ce point, il y a dans le droit crédit même un moment qui ne peut que nous étonner rétrospectivement, c'est-à-dire où il prend carrément sa distance par rapport à l'antisémitisme en la personne de son père, enfin, le père du narrateur, hein, qui est une caricature de son propre père. Et dont il dit une ou deux reprises, il dit, c'est un type qui, chaque fois qu'il avait le moindre ennui au bureau, disait, c'est la faute des juifs et des antisémites. Et les gens sont tirés, on va se voir, on est en 35 à un moment où il est capable de cette distance par rapport à ça. Le drame, naturellement, c'est qu'un an plus tard, il va faire exactement la même chose. Et il va faire, alors c'est là que l'année 36 apparaît comme un tournant, il va le faire en partie, il y a une convergence de causes, mais en partie à cause de la déception que lui a causée la réception de Mort à Crédit. Il avait dit, et c'est l'objet de les 50 premières pages du voyage à Massa, hein. Il avait mis tout son effort pour aller plus loin que le voyage au bout de la nuit, pour être davantage lui-même, approfondir ses découvertes, ses intuitions. Et en effet, on peut, avec le recul que nous avons maintenant, on peut penser, c'était l'avis d'un grand partagé, que Mort à Crédit est un de ses chefs-d'œuvre. Or, pour des raisons circonstancielles, Mort à Crédit est publié juste au moment des élections du Front populaire en mai 36, du Front populaire, du grève, etc. Et donc, n'obtient nullement la réception qu'il pouvait en attendre. Et pas simplement à cause des circonstances, il y a aussi qu'à plusieurs points de vue, Mort à Crédit est un roman plus audacieux, plus du côté de la pornographie, un certain nombre de choses choquantes, il va plus loin. Donc, il a une réception qui le laisse frustré. Et alors, il a c'est là que l'antisémitisme, qui jusqu'à présent était en fond de tableau, c'est là qu'il va devenir décisif, parce qu'il a immédiatement l'idée que cette mauvaise réception, elle est due au fait que toute la critique est aux mains des juifs, hein, propriétaires des journaux ou bien des moyens de presse, etc., est aux mains des juifs. Et donc à partir de ce moment-là, c'est là que ce qui était la progression de sa recherche littéraire, vraiment littéraire, devient un facteur qui le lance, et alors là, une fois qu'il est lancé, il n'y a plus de limite. Hein. Il en est de cela comme pacifisme, qui est un autre des points de départ de Bagatelle pour un massacre, un pacifisme authentique, le désir de voir quelqu'un qui avait vécu la guerre de 14, si on l'avait bâti dans son corps, le désir d'être, d'éviter pour que ça ne se reproduise, de faire ça, etc.
Et qui sera l'argument principal de ce film pour se défendre, ça.
Bien sûr, parce que c'était l'argument, seul argument, qui n'est pas dérivé de toute authenticité, c'est ça qu'il faut dire, mais qui en réalité est immédiat. D'abord, il repose, c'est comme présupposer que toute la critique sur le film et que ce serait la raison pour laquelle il ne serait pas admis. Le pacifisme repose sur un autre présupposé qui serait que ce soit le juif qui pousse le gouvernement et les institutions françaises à préparer la guerre. Hein? C'est donc c'est finalement mettre déjà la réponse dans la question. Et donc il y a ces points de départ qui sont relativement, on peut cerner en tout cas, et puis très vite, ça ouvre ce genre de considération, ouvre la voie à des choses qui n'ont plus rien de rationnel, qui relèvent de pulsions, de blocages, d'inconscient, qui se traduisent en fantasmes sexuels dans les pages les plus terribles de Bagatelle pour un massacre. C'est là quelque chose. Oui, je voulais dire, je suis passé par-dessus de. Ah oui, vous disiez pour l'argument qui reprend la guerre.
C'est pas si qu'ils sont parlés, c'est également des arguments de discussion qui sont rebattus dans les décombres. Il faut dire, c'est eux qui nous conduisent à la guerre, c'est le gouvernement qui conduit par un tel et tel, et qui nous a mis à la tête. Je suis ça, je suis pacifiste, en quelque sorte. C'est pas surprenant que quand on démarre au bas.
Le roi de ces livres, bon, il est écrit, l'ancien combattant est victime d'une certaine manière de la guerre. Enfin, ça, une fois qu'on a dit ça, on a fait pour l'excuser, pour il lui avoir donné de ne pas se laisser traiter de la guerre. Il dit, je n'ai rien fait d'autre que d'essayer d'empêcher mes compatriotes qui n'étaient pas prêts, dont je savais qu'ils n'étaient pas prêts à affronter l'Allemagne, etc., de les empêcher de se lancer dans la guerre. Au plus vif du drame, si je puis dire, c'est ça, c'est tout. Il y a chez lui, ce qu'il m'a montré, en particulier dans les années de nuit, sous les considérations, les intégrations, il y a un sens réel du malheur de la condition humaine des hommes, même si ça se traduit parfois en injures ou en dépréciation. Il a chez lui une véritable disposition qui reste, qui subsiste même au cœur des pamphlets. Hein, quand le tout premier des pamphlets, qui est en deçà de l'échelon antisémite, qui s'appelle Bien ou pas, ce tout premier pamphlet oppose au communisme soviétique tel qu'il vient de découvrir, oppose ce qu'il appelle un communisme qui serait le vrai communisme, et dont la devise serait « toutes tes peines seront les miennes ». Une espèce de mise en commun du malheur des malheurs des autres. Et ceci, il en reste une trace, y compris dans la lettre en massacre, y compris dans les veuves des cadavres. Et en même temps, c'est là à la fois insupportable, impardonnable, inexplicable, et en même temps, il tâche un peu dans sa compassion, sa sensibilité au malheur des hommes, qui est naturellement le sort des luttes. Là, on est dans le, je répète, inexplicable, insupportable, on ne sait pas, on est tout cas le centre brûlant du scandale sémite. Et ça appelle plusieurs mises au point, pour faire ces mises au point. Il y a la question de la collaboration. A-t-il ou n'a-t-il pas aidé les collaborateurs? Il y a des réponses que l'on peut argumenter pour le oui et pour le non. Une chose est certaine, c'est qu'il s'est tenu à l'écart de tout ce qui était les institutions, les grands mutualisme, de la collaboration, y compris la collaboration intellectuelle. Il n'a jamais, par exemple, pendant, il a refusé toujours d'écrire des articles pour les journaux, les sangliers, collaborateurs. Ceci est une chose. Et d'un autre côté, il ne s'est pas privé d'envoyer à ses journaux, pas au journal en tant que tel, mais au directeur ou à des rédacteurs, des collaborateurs, parce qu'on peut dire aux collaborateurs dans son territoire, l'un des journalistes il ne s'est pas privé d'envoyer des lettres dont il savait effectivement qu'elles seraient publiées. Là, on est dans le versant d'un cas. Il faut dire que ça a créé pour la justice, cette situation, ce comportement, a créé pour la justice en 1945 une difficulté juridique, à la mesure où il n'y avait pas le dossier que l'on pouvait monter contre lui pour l'accusation, en particulier le dossier d'extradition que demandait le Danemark à la France pour avoir des raisons de l'extrader, et qui était relativement limité. Et finalement, la peine, quand il a eu en 1951 le jugement par Dumas, la peine a été relativement limitée à cause de ça, c'est-à-dire que les faits qui tombaient sous le coup de la loi étaient relativement limités. Il faut se souvenir qu'il n'y a eu en France de loi contre l'incitation à la discrimination et au racisme en 72. C'est-à-dire que avant de ça, il n'y avait pas de cadre juridique qui permettait d'argumenter contre ces livres. Raison pour laquelle il a été, la justice s'est trompée en porte-à-faux, puisqu'il a été poursuivi pour trahison. Des choses qui n'avaient pas été sans fondement et qui donnaient des prises à la défense, naturellement. Voilà, cela dit, donc, il y a cette longue période d'emprisonnement, relativement de 18 mois, et il y a cet exil au-delà de 4 ou 5 ans, dans des conditions en effet difficiles au Danemark, jusqu'à ce jugement de janvier-février 50, qui est un jugement limité dans ses condamnés à une peine qui est en réalité couverte par la détention qu'il avait eue au Danemark même. Donc ça montre bien le porte-à-faux. Tout était, et tout reste, à l'heure actuelle, tout était dans la disparité entre la relative limitation des faits qu'on pouvait juridiquement lui reprocher et la culpabilité morale. Et la culpabilité morale n'est pas quelque chose qui se, en cas à l'époque, qui se traduit par une instruction judiciaire. Voilà. Donc, pour recouper, terminer la boucle de votre question, donc lui a le sentiment d'avoir été, d'avoir subir ce sort de détention, puis d'exil, etc., sans raison, sans qu'il y ait de fondement réel. Et du coup, il renverse tout ce qui est de la manière pour nous la plus scandaleuse, il renverse tout par une position de victime. Il est victime, il va juste à dire cette monstruosité, c'est une affaire de réflexe à l'envers. Ce qui est naturellement le peuple nous faire sursauter. Et à partir de là, jamais plus entre 45 et 61, c'est-à-dire sa mort, jamais plus il ne. D'abord, il n'aura de mouvement de regret, de repentir encore moins de ce qu'il a pu écrire à ce moment-là, mais encore il gardera le sentiment d'avoir été traité injustement, et deux, sans lui, sans lui forcément le dire, mais à l'horizon, l'idée que s'il a été traité de cette manière injuste, justifié et injuste, c'est parce que le pouvoir est toujours resté aux mains des mêmes puissants. Et des écrivains qui, d'une certaine manière, circonstanciels, se sont plus mouillés que lui, si je veux dire, hein. Des écrivains qui ont écrit en effet dans les journaux de la collaboration sont relativement plus vite exonérés, hein, et que la condamnation qui prend à ce moment-là, qui n'a plus l'aspect judiciaire, mais dans l'aspect des condamnations du Comité national des écrivains, hein, c'est-à-dire ce sont les écrivains eux-mêmes qui exercent d'une certaine manière, l'intérêt de la justice, les membres du comité de libération, en déclarant qu'ils ne publieront plus rien chez un éditeur ou dans une revue qui aura accueilli des textes de un tel, un tel, un tel et un tel. Bon, ils sont sur une espèce de liste noire, n'est-ce pas? Et en effet, Céline est le dernier à bénéficier d'une espèce d'allègement de cette lettre, c'est-à-dire que assez rapidement, la cheville ouvrière du changement de ce statut-là a été Jean Paulhan. Un Jean Paulhan qui avait un passé irréprochable de résistant, qui avait été fondateur des lettres françaises, qui avait bien entendu été arrêté, etc. Jean Paulhan, après la guerre, fait partie dans les premières années du CNE, du Comité national des écrivains, mais est très vite, on est en 45-47, il est très vite hérissé par le fait que ce comité est dominé par des membres du Parti communiste, des confrères du Parti communiste, Aragon en tête. Et de telle sorte que, à partir de 47, Jean Paulhan se retire de ce comité d'écrivains qui exerçait à sa manière une sorte de justice et qui crée une revue nouvelle dans laquelle il commence petit à petit à publier des textes de Joanneau, de